Un soir, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Je me suis armé contre la justice. Ce cri de révolte a été longtemps le signal de ralliement d'une certaine modernité poétique qui a voulu ignorer l'autocritique à laquelle Rimbaud soumet cette attitude tout au long d'une saison en enfer et qui a voulu rester sourde à la conclusion à laquelle il aboutit. Cela s'est passé. Je sais aujourd'hui saluer la beauté. Assurément, les poètes du XXe siècle avaient de bonnes raisons de mettre en doute et en déroute les canons d'un beau qui avait trop souvent servi de masque à l'horreur politique, militaire ou économique. Ils devaient le faire pour cesser de compromettre leur art avec un ordre injuste qui attendait d'eux une caution esthétique et un supplément d'âme. Chacun d'entre eux, par ailleurs, avait pu rencontrer dans son histoire et dans son entourage personnel des motivations plus intimes à cette révolte qui donnait aux œuvres qui en sont issues toute leur force et leur sincérité. Après deux guerres mondiales et d'autres encore, toutes les évidences sur lesquelles reposait le lyrisme traditionnel ont été remises en cause par les sciences humaines, la sociologie, la psychanalyse, la linguistique. Reconnus incapables de représenter le monde et d'exprimer l'identité profonde du sujet, le langage est apparu à beaucoup de poètes comme un obstacle contre lequel il fallait lutter ou ruser ou comme un matériau avec lequel il ne restait plus qu'à jouer. Mais au bout de quelques décennies, l'infraction systématique à des règles depuis longtemps oubliées a perdu de sa valeur subversive et l'expérimentation verbale a fini par tourner à vide, de plus en plus coupée de l'expérience. De nombreux poètes, y compris ceux qui l'avaient le plus brillamment prôné et le plus radicalement pratiqué, ont pris conscience alors des limites d'une telle démarche. Ils se sont demandé s'il n'était pas temps de rompre avec la rupture. La dernière chose à transgresser désormais, c'était la transgression elle-même. Il me semble que le parcours poétique de Jean-Paul Michel participe de ce mouvement général, même si c'est pour des raisons et sous des formes qui lui sont propres. Le rassemblement de l'essentiel de son œuvre en fait aujourd'hui mieux apparaître l'unité, la cohérence, mais aussi l'évolution et les tensions internes. Et je vais d'abord revenir sur ce que je perçois de cette évolution. Par manque de temps, je ne pourrais indiquer la source des nombreuses citations que je serais amené à faire de son œuvre, ni même les signaler toujours comme telles, mais vous les reconnaîtrez facilement, ayant lu de près Jean-Paul Michel, et de toute façon, chaque fois que vous entendrez quelque chose de bien dit et de bien pensé, vous saurez que c'est lui. Première donc aperçue de l'évolution de Michelena à Michel. Une émotivité qu'il qualifie lui-même d'excessive et une culture classique portaient naturellement Jean-Paul Michel vers le lyrisme et des idéaux de beauté, de bonté et de vérité. Dans les années 70, il a cherché à les mettre à distance par crainte de sombrer dans un expressionnisme et un idéalisme que les avant-gardes littéraires de l'époque récusaient et accusaient de complicité avec l'idéologie dominante. Dans sa révolte contre l'ordre établi et sous la pression de motivations plus intimes, Il s'est livré alors à un véritable travail de dépeçage du poème et de mise en scène sacrificielle de la parole poétique qui lui permettait, dit-il, de tailler froidement dans le corps lyrique. Dans ses premiers textes publiés, la tendance au lyrisme se trouvait déjouée par un savant dispositif énonciatif et typographique qui faisait de tout énoncé en première personne une citation mise entre guillemets ou en relief par un style ou un corps différent. Les résonances autobiographiques étaient neutralisées par l'usage d'un pseudonyme, Jean-Michel Michelena, qui interdisait de confondre le narrateur avec l'auteur, bien que s'y inscrive très fortement la trace de son patronyme, refusé sans être effacé. Il s'agissait pour Michel Michelena de rompre avec l'expressionnisme naïf de ses poèmes d'adolescent. Je le cite, en 1996, dans ses entretiens sur la poésie, « Un été, les ciseaux à la main, je démembrais avec vigueur des pages de mes 17 ans. Un jour, écrire ne signifie plus simplement jeter des mots sur le papier sans méfiance. Commence les vivisections, les espacements, les découpages. Rien, maintenant, n'a de prix comme de gagner coûte que coûte, contre soi, le recul qu'impose à l'observateur objectif la reconnaissance de sa propre position. Pour en finir avec l'enfance, avec l'obscène dégoûtant pathos de ses débuts poétiques, Michel Michelena a rêvé d'une, je le cite encore, objectivité libératrice, d'une froideur. Dans son premier livre, il déclarait « Je m'émeux encore, cela me navre ». Traquant désormais toute trace d'émotion, il s'est voulu héros de la froideur. Cette ascèse était à ses yeux indispensable pour donner au poème la tenue et la tension nécessaires. Autre chose est pleurer, rager, trépigner, s'indigner, mourir. Autre chose, écrire. Cela consiste à disposer à distance convenable du fait, dans le blanc d'une page, en artiste, à l'exacte distance qu'il faut de la précédente et de la suivante, des figures qu'on aura auparavant découpées dans le tissu des douleurs refroidies, des colères congédiées. Mais Jean-Paul Michel reconnaît aussi qu'une telle attitude n'était pas exempte d'une sévérité sadique, animée d'un obscur désir d'autopunition. Et il lui arrive de le regretter. Je cite, « Pour moi, dit-il, hélas, j'écris avec des ciseaux. » Plus tard, il aura le sentiment d'avoir, plusieurs décennies durant, je le cite, « poussé jusqu'à leur limite intenable, presque toutes les voies de la critique. » Ses facultés d'analyse et de réflexion exerçant une véritable censure à l'encontre d'une expression plus lyrique et plus spontanée. Celle-ci commence à se faire jour dans les années 80, après la mort de son père, de son frère, de son maître, Jean-Marie Pontevia, qui lui avait enseigné la philosophie et appris que tout a peut-être commencé par la beauté. Cette confrontation brutale et répétée avec la disparition des êtres les plus chers lui a fait mesurer le prix et la fragilité de la vie sacrée dans sa fraîcheur émouvante. Les existences et les entreprises les plus nobles étant vouées à un désastre obscur, est-il vraiment souhaitable d'entraîner les mots eux-mêmes dans la catastrophe, aussi belle soit-elle ? La question fera lentement son chemin dans l'esprit de Jean-Paul Michel. En 1988, en tête de la réédition d'un recueil, d'abord publié en 1981, et dont le titre « Beau front pour une vilaine âme » révèle un poète bifronce. Il place un texte dans lequel il jette un regard rétrospectif et critique sur sa production antérieure. Voilà 10 ans, je publiais des livres bizarres. Je voulais me faire froid, décevoir, laver mon cœur. Aucune idée du bien n'était celle d'un feu qui lave. Les vérités les moins tolérables seules me semblaient dignes de valoir. Je voulais que l'art aggrave, non apaise. Repris en 1997, à la fin de la première section du recueil collectif intitulé « Le plus réel est ce hasard, ce feu », ce texte fait dans le volume office de charnière entre la première phase de la production de Michel, qu'il date de 1976 à 1988, et la suivante, où il donnera de plus en plus libre cours au lyrisme qui avait été jusqu'alors refoulé et au service duquel il va mettre désormais la rigueur acquise dans sa phase ascétique. À partir de 1992, il signe de son vrai nom des poèmes dans lesquels il renonce au dispositif énonciatif et typographique antérieur pour adopter un vers très libre, le plus souvent centré sur la page, pour mieux donner à voir les inflexions changeantes de la voix lyrique. De précieuses pages de journal, écrites au cours de la nuit du 11 août 1993, prennent acte de ce tournant décisif dans la démarche poétique et dans l'attitude spirituelle de Michel. Je cite « C'est moins d'une conversion à l'infini, de longtemps déjà opérée, que d'un pari sur un salut qu'il s'agit maintenant, ici même, de la reconnaissance de la poésie et de la pensée comme puissance de salut, par un qui les aura jusqu'ici plutôt connus, puissance d'écartèlement. Dernière tentative encore possible, renverser les signes de cette puissance de dissolution, les convertir en puissance de vie nouvelle. » Ces lignes rappellent celles du mémorial et du Paris pascalien. Dans un sens différent, il s'agit d'une véritable réconciliation avec la vie et la poésie, confirmée par l'ex-voto et le titre du recueil collectif publié en 2001, Défends-toi, beauté violente. De cette évolution témoigne l'organisation de 2 des livres au sein desquels a été recueilli l'essentiel de la production poétique de Jean-Paul Michel, Le plus réel et ce hasard, ce feu. Je ne voudrais rien qui manque par ailleurs dans un livre. Sans entrer dans le détail de leur composition, qui a d'ailleurs varié d'une édition à l'autre, je me borne à souligner qu'elle est tripartite. Chacun d'eux s'ouvre sur des textes appartenant à la première période, se termine sur des poèmes illustrant la seconde manière de Jean-Paul Michel et comportant en son milieu une section qui fait la transition entre les deux. Dans Le plus réel et ce hasard, ce feu, on trouve un ensemble de textes au milieu daté de 1982 à 1992. Et dans l'autre volume, Je ne voudrais rien qui manque dans un livre, le rappel à l'ordre à fait rare qui mêle les 2 périodes et les 2 manières du poète. Le rassemblement chez Flammarion en 2012 des écrits sur la poésie fait apparaître une évolution analogue de la pensée de Jean-Paul Michel. La poétique mise en œuvre dans ses premiers recueils n'y est évoquée qu'à titre de rappel, les textes de la première période y étant peu nombreux. L'équilibre penche très nettement en faveur de la réflexion menée par Michel à partir des années 1990, réflexion qui s'oriente très différemment, comme le fait parallèlement sa pratique. Je m'intéresserai plus particulièrement à cette seconde poétique, qui est celle de Michel, plutôt que celle de Michelena, et qui est aussi une poétique seconde. Elle réaffirme hautement les pouvoirs de la poésie, après avoir fait l'épreuve de leur perte, et sans rien ignorer de ceux qui les contestent. Ce sont les idées forces de cette poétique seconde, et les formes aussi de cette seconde manière, que je voudrais ici tenter de dégager. Elle situe Jean-Paul Michel dans un écart délibérément assumé vis-à-vis de toute une tendance de la production poétique française contemporaine, mais elle lui valent une estime presque unanime, car elles ont été conquises au prix d'une confrontation lucide et sans concession avec ce qui peut sembler les rendre obsolètes. Il peut paraître en effet inadmissible de défendre et d'illustrer, comme le fait Jean-Paul Michel, dans son activité d'éditeur, de poète et de philosophe, la place du vrai, du beau et du bien, quand tant d'autres se croient obligés de dénigrer et de rabaisser l'art et la poésie. En plein accord, me semble-t-il, avec ses prises de position courageuses à l'encontre du poétiquement correct, j'aborderai donc sa poétique sous les auspices de cette triade platonicienne volontiers honnie par nos contemporains. Jean-Paul Michel a toujours revendiqué l'ambition ontologique de la poésie, qui est, je le cite, de placer l'être en face de lui-même selon une formule empruntée à Bataille, qui donne son titre à un recueil de carnets écrit en Sicile à l'été 1994. Il ne voudrait rien qui mente dans un livre, même s'il sait une telle transparence inaccessible. La vérité poétique ne réside pas dans une parfaite adéquation à quelque idée de l'être, mais bien plutôt dans l'approche toujours approximative d'une réalité qui échappe foncièrement aux prises du logos, c'est-à-dire du langage et de la raison. Le réel n'est pas rationnel, il n'est rien de ce qu'est le langage. Ce que cherche à atteindre la poésie, pour reprendre la formule de Reverdy, c'est le réel désiré qui manque, et qu'il avoue à la quête d'un horizon inaccessible. Être est une poursuite, une chasse. Être un gibier fuyant. Le vrai ne relève pas de l'essence, mais de la contingence. Il surgit de ce hasard qu'aucune conceptualisation jamais ne pourra abolir. Réfractaire à la raison, c'est un feu qui embrase le désir. La pensée de Jean-Paul Michel s'apparente à certains égards à une ontologie négative. À la suite de Bataille et de Lacan, il définit souvent le réel comme l'impensable, l'impossible, et il insiste volontiers sur notre inaptitude à connaître, qui est énorme, et condamne le poème à danser autour d'un secret central. Mais cette impossible coïncidence entre l'être et le logos, c'est aussi la chance de la poésie. elle la pousse à s'affranchir des savoirs institués, des formes et des formules toutes faites, pour inventer un autre langage. Cette part qui échappe meut. Notre meilleur savoir, nous connaître ignoré. On reconnaît encore l'ami de tout à l'heure. L'échec de la raison appelle un autre mode de connaissance, fondé sur une relation d'inconnu. Un rapport à la présence de l'être qui se soustrait à toute représentation. La reconnaissance du mystère de ce qui est prend parfois chez Michel une résonance mystique. L'impossible à penser réel est alors nommé le divin ou le sacré. La définition négative de l'être aboutit paradoxalement à une ontologie positive, à ce « oui » que le langage seul peut risquer comme son acte, reconnaissance de ce qui n'est pas le langage, qu'il doit à son horizon poétique le plus élevé accueillir sans condition. Mais pour Michel comme pour les Grecs, cette hiérophanie n'ouvre pas la porte d'un autre monde, elle a lieu dans notre monde. L'être est inséparable de l'apparaître, ek phanestaton. Son épiphanie se produit au cœur du phénomène, comme l'éclat de ce qui est, dans le surgissement des choses comme choses, choses simplement choses. Elle n'est pas réservée à la sphère de l'intelligible, mais se révèle dans l'expérience sensible elle-même, où le tout de l'être s'offre en sa fraîche présence. À l'encontre des prétentions de l'intellection pure, Michel partage avec Hölderlin une attention fervente à l'endroit du concret comme concret. Le tournant qu'emprunte sa démarche poétique au début des années 90 correspond à une conversion au sensible, à ce qu'il appelle la vie crue, sans phrase, qui avait été perdue dans la période précédente et à laquelle il est permis de croire à nouveau le cru des choses, leur or. Pour autant, ce recours aux choses mêmes, à la foi perceptive, n'est pas un retour à la vie immédiate. La réalité sensible est un complexe qui défie les pouvoirs du langage. Sa richesse déborde tout ce qu'on en peut dire. Or, cet écart apparaît désormais à Jean-Paul Michel comme un surcroît, non comme un manque. Loin de conduire à déconstruire le langage, il invite le poète à en explorer et en exploiter et en exalter les ressources. L'excès de l'être ne peut se dire par du défaut. Seule la confiance retrouvée dans une langue, reconnue chance, peut permettre à la parole poétique de refléter, tant soit peu, l'éclat de l'être. Selon Pontevia, les Grecs ont inventé une façon d'être au monde qui pourrait se dire être dans la beauté. Pour Michel comme pour eux, le vrai va de pair avec le beau. La beauté existe, c'est l'éclat de l'être en son éclat. Le beau. Jean-Paul Michel n'a cessé de défendre en théorie et d'illustrer par sa pratique d'éditeur et de poète la part qui revient à la beauté sur terre et dans les textes. Par là, il s'oppose vigoureusement à tous ceux qui proclament la fin de l'art et aux anti-poètes qui appellent de leur vœu une post-poésie. Mais le beau n'est pas réservé à la sphère esthétique. Il revêt aux yeux de Michel une valeur ontologique. Être et beauté. Être se dit de multiples façons, mais son nom propre est le beau, qui lui-même se dit en autant de sens qu'être. La beauté ne réside pas au ciel, mais se donne dans le monde. Il n'est d'ailleurs d'autre beauté que terrestre. Pour autant, la conception qu'en propose et l'image qu'en impose Michel n'est nullement apollinienne. La beauté, telle qu'il la ressent et la met en œuvre, est foncièrement violente ou sublime. L'hésitation entre ces deux épithètes trahit la tension interne qui me semble animer la poétique de Michel. La beauté lui apparaît divisée entre des traits contraires. Sublime, elle exalte mais dépasse les pouvoirs de l'entendement humain. Ravissante, elle n'en est que plus terrible, comme l'ange de Rilke. Elle suscite ce que Jean-Louis Chrétien nomme l'effroi du beau. Cette ambivalence correspond au double visage de l'impossible réel en son effarante beauté surgie. Et comme le réel, elle résiste au désir charnel ou spirituel, mais par là même, elle l'attise. Elle serait à mes yeux, dit-il, moins belle consentante. D'où la tentation de l'injurier, comme Rimbaud, de lui faire violence. Divisé comme la beauté, le poème, luttant contre soi, devrait-il, de soi, devenir ennemi? Telle a été l'attitude de Michelena quand il faisait du dépeçage un des beaux-arts. De cette épreuve, la beauté est sortie grandie. Mais la poésie de Jean-Paul Michel a gardé l'empreinte de cette division qui est constitutive de la forme vers elle-même. Autant que le principe d'équivalence théorisé par Jacobson, c'est en effet l'interruption de la ligne qui définit le vers et la possibilité qui en découle d'une discordance entre ses frontières et celles de la phrase. Ce principe de rupture, Michel le met en œuvre par de fréquents enjambements, rejets et contre-rejets, qui scindent brutalement la continuité syntaxique et parfois le corps même des mots, non pour défigurer le vers ou le mot, comme le fait Denis Roche, mais pour le rendre plus expressif. Il faut qu'en son cours, un vers se brise imprévisiblement pour que la chose nommée se débatte, bondisse, crie. La pratique du break, chère à Claudel, ne vise plus à déconstruire le poème, mais à lui donner plus de vigueur et d'énergie. Un vers coupé net tremble et brûle davantage qu'une longue période oratoire. L'un court à l'excès, l'autre de tours, détours qui ne préviennent lors qu'il vire, rompt, bifurque, change. Ce vers élastique déjoue l'ordre des phrases pour accueillir en lui le désordre des choses, afin de le soumettre à une ordonnance d'un autre ordre. Pour exprimer la complexité mouvante du monde, où chaos et cosmos ne cesse de s'unir et de s'affronter, la poésie de Michel associe constamment l'ordre et le désordre en une sorte de chaosmos. La poésie de Michel est à la fois baroque et classique, à condition de se souvenir que le classique, comme l'écrivait Henri Maldinet, n'est que la corde la plus tendue du baroque. La pratique du vers, mais aussi la mise en page du poème et la composition du recueil vise, je cite, à une organisation rythmique du monde. Deuxième citation, ordonne ce frais désordre de choses données, prend toute beauté donnée, toute chose à l'excès donnée. Prends, qu'on sente dans ton pas gémir la terre tendre. Marche, cadence, rythme, chasse. Sans commune mesure avec le pas cadencé du maître régulier, le rythme de ces vers est, pour reprendre la célèbre définition platonicienne, un ordre du mouvement, une configuration changeante du flux de la parole. Il est tout à la fois visuel et musical. Tout au long de sa carrière d'éditeur, sur laquelle je ne peux pas ici m'attarder, malheureusement, Jean-Paul Michel a fait preuve d'un sens de la mise en espace du poème qu'il a mis au service des auteurs qu'il publiait, mais aussi de sa propre poésie. À l'instar de Ponge ou de Mallarmé, il aime comparer son activité à l'art d'ordonner des jardins. On lui doit cet art, cette composition de vide et de plein, comme musicalement hier dans cet art perdu des jardins, la chance d'un espace d'art rythmé d'allées et de massifs, de parterres fleuris et de buis sombres. Dès lors, la page se donne à voir à l'œil du lecteur et du typographe comme un paysage. Troisième citation. Ou bien il te faudrait connaître jardin, poème, labyrinthe, chose de taille et comme silence sculpté par des notes. Jardin alors, à proportion plus haut que dressé, par espoir, désespoir plus haut. Mais cette composition s'offre aussi à l'oreille et à la main musicienne qui scande le sens. Le poème vivant fait musique du corps entier. Le dispositif typographique donne à voir et à entendre la voix du poète et son chant, chant tragique au sens de la tragoédia, mais seul capable de répondre au désenchantement du monde moderne à condition d'être juste à tous les sens du terme. Cette justesse formelle, musicale, lexicale est une façon de rendre justice à la beauté du monde. Celui qui parle avec justesse épouse toute chose du monde. Quatrième citation. La beauté d'un chant se connaît à sa justice, à l'endroit des choses petites, à l'égal des grandes, non moins que des petites. À l'une, à l'autre, il donne exactement sa place. Et voilà pour finir le bien. Pour un auteur probe, comme Jean-Paul Michel, justice et justesse, rigueur morale et esthétique vont de pair. Son credo artistique mêle aux qualités esthétiques des vertus éthiques et lie étroitement le beau et le bien. En art, il croit, je le cite, autant à la loyauté et à la fierté qu'à la force et à la netteté. Mais cette poétique, qu'on écrira comme Jean-Claude Pinson avec un H, ne saurait se soumettre à aucune morale. De même que l'art de Jean-Paul Michel associe l'ordre et le désordre, la règle et son offense choisie, son éthique fait place, je le cite, à l'éclat des vices au service de la vigueur du poème. Non qu'il ignore la nécessité de la loi qui dicte au poète son devoir. Il aime citer Spinoza, le sage reconnaît la loi comme la nécessité de son désir. Mais le devoir de la poésie est énorme. Il ne répond à aucune autre norme que celle qu'elle s'est fixée et qui lui est de ce fait absolument propre. Le poème invente sa loi et le poète tente de formuler et de pratiquer pour lui les vertus qu'il lui faut. Cependant, cette éthique toute personnelle exclut toute concession et toute complaisance envers soi. L'injonction morale est de toujours, pour chacun, une injonction contre soi. De même que la beauté, la bonté est une guerre, un combat de tous les instants contre le renoncement et le découragement. D'où l'omniprésence dans l'œuvre de Michel de la figure du héros, celui qui tente de faire face à l'impossible. Cette posture héroïque est la seule réplique possible au tragique de l'existence, à la réalité de l'horreur. L'art n'efface pas la perte. Il lui répond : la poésie participe de ces efforts émouvants que déploie toute vie pour cautériser la plaie ouverte par le non-sens et la mort. Le langage, qui perpètre le meurtre de la chose, suppose la perte, mais en même temps la répare en assurant à l'objet perdu une survie symbolique. Citation 5. Comment sauver poème qui ne sauve ce qu'il aime, nomme, le très réellement garde, sinon de tout oubli, puisqu'il n'est de beauté que promise à perte, du moins pure, de toute atteinte méprisable. Les poèmes sont autant de chances de rendre à jamais présent ce qui paraît perdu. Parmi toutes les pertes que nous inflige le temps qui passe, celle de l'enfance est une des plus douloureuses, mais son souvenir est aussi une réserve inépuisable de beauté sensible, de belles actions, où peut venir se ressourcer l'énergie morale et poétique. Les illuminations de l'enfance n'ont à mes yeux jamais perdu de leur toute puissance. Chacun y trouve la matière et les formes de l'élan de sa vie. Dans le rappel à l'ordre à Ferrare, qui marque, comme je l'ai dit, un tournant dans la production poétique de Michel, font retour les récits de l'enfance, qui viennent par moments apaiser la tension de la parole héroïque en lui donnant un aspect plus enjoué. Aller dans la compagnie des enfants, leur gaieté ranime ma gaieté, ou en y introduisant, sixième citation, une évocation émue, oh, les jeux des enfants dans la pièce fraîche quand hier seulement nous doutions. Cette exclamation entre crochets n'est pas une simple parenthèse. Les jeux d'enfance qu'elle invoque rejettent dans le passé, hier, les doutes du poète et contribue à le réconcilier avec la vie. Puissions-nous, quelques jours, saluer plaisir, douleur, visage, choses simples. La présence d'un enfant suffit à replonger l'adulte dans la vie profane, qui est une bénédiction. Le contraste est frappant entre la tonalité douce et tendre de tels poèmes et l'éthos de la révolte, de la violence ou de la dérision qu'affichaient les textes de Michel Hénat. La bonté qui s'exprime dans la seconde manière de Michel est de même que sa beauté seconde, comme en témoigne le texte qui a donné son titre « Bonté seconde » à un important volume. Ceux qui sont passés une fois de l'autre côté se connaissent à un certain sourire, qu'il aurait été donné de connaître par la douleur, le deuil, l'excès, l'amour, l'audace, le désespoir, à l'endroit d'un sens absent, une sagesse, une perspicacité, une sensibilité plus qu'humaine. Ils savent à quoi s'en tenir. Leur voix peut avoir tous les accents de la bonté. Rien n'est trop grand qu'ils ne puissent reconnaître, trop pauvre qu'ils ne puissent aimer. Par un renversement spectaculaire, au contact même du négatif, Jean-Paul Michel se convertit à une philosophie du « oui », à la chance de « seulement être ». Par inversion de sens, le hasard est devenu chance. Un demi-tour sur soi a, je cite, « converti la douleur en joie, l'infortune en chance, le désespoir en courage. Le nom vrai d'être est chance. » Et Michel a décidé de parier sur elle. Nous regardons notre présence à ce qui est, comme l'invitation à un jeu supérieur qui vaut encore d'être joué, l'existence comme une chance, le langage comme le lieu d'opération décisive où peut advenir de la vie et du sens en avant, la poésie comme sa puissance la plus propre. Paris anti-pascalien au possible, puisqu'il conduit le poète à chercher le salut ici-bas, à situer l'être dans l'existé, sans céder au pessimisme existentialiste et sans jamais rabaisser l'homme pour adopter une éthique spinoziste de la joie et une poétique de l'énergie. Je conclus en réaffirmant ainsi contre la morosité ambiante les vertus du vrai, du beau et du bien. La parole de Jean-Paul Michel nous fait tout simplement du bien. Peu d'œuvres poétiques de notre temps sont aussi roboratives. Confrontées, comme tout mortel, aux limites et aux souffrances de la vie humaine, Jean-Paul Michel a choisi de ne pas sombrer dans le désespoir ni la dérision et trouver dans le tragique même de notre condition la force d'une énonciation poétique et héroïque. Face au désenchantement du monde moderne, il a refusé de déchanter et tenté de faire entendre un chant à la fois simple, savant et pur. Et au sein même de la mélancolie inhérente à toute existence, il a su indiquer la voie qui mène à la joie de vivre, d'écrire et d'aimer. Qu'il en soit ici remercié.